Frères et sœurs, notre espérance est en Dieu, que chacun de nous reçoive de l'Éternel la grâce, la paix et la joie au cœur même de son existence. Et pour vivre cela, plaçons-nous résolument devant l'Éternel avec le répond indiqué sur le livret liturgique qui figure au début du psautier français, que tous unissent pour chanter l'amour de l'Éternel. Levons-nous pour chanter Dieu. Malgré son silence et son secret, nous célébrons l'Éternel, le Dieu des vivants. Malgré le mal et la souffrance, nous affirmons que ce monde est fait pour le bonheur et pour la vie. Malgré les limites de notre raison, les révoltes de notre cœur, nous rendons grâces à Dieu. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église vers cette terre où le bonheur et la grâce sont la réalité de chaque existence. Malgré la mort, nous proclamons la résurrection. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est pour tous les hommes, toutes les femmes. Amen. Frères et sœurs, poursuivons notre louange par le chant du psaume 92. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 4 du psaume 92. Oindre d'huile le front de l'enfant est une métaphore que nous entendrons tout à l'heure dans le texte biblique que nous lirons. C'est une métaphore qui peut aussi se traduire par de l'eau posée sur le front d'une personne. C'est le geste même du baptême. Et ce geste, nous allons tout à l'heure le revivre avec Jessica et Lessa. Pour l'heure, entendons quelles sont ces paroles de l'Évangile selon Matthieu qui instituent finalement ce geste, ce signe. C'est Jésus qui, au moment de quitter ses disciples, leur adresse ses dernières paroles, leur disant « Allez, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La dynamique du baptême nous conduit à l'humilité. Éternel, nous avons entendu que nous sommes appelés à baptiser en ton nom. Nous sommes appelés à baptiser en ton nom de Père. Et cela nous conduit à réaliser que nous avons du mal à t'aimer de tout notre cœur. Cela pourrait suffire comme prière d'humilité, mais je pense que nous pouvons faire mieux. Car il s'agit aussi de baptiser au nom du Fils, quoique n'étant pas spécialement trinitariste. Mais cela nous invite à découvrir que nous devons aimer aussi notre prochain et que nous cherchons souvent notre propre intérêt au lieu de servir. Baptiser au nom même de Dieu, c'est baptiser au nom de l'Esprit, alors que nous portons rarement tous les fruits de l'Esprit, qu'il s'agisse de l'amour, de la fidélité ou de la joie. Alors nous t'en prions, Éternel, accorde-nous ton pardon et donne-nous de vivre dans ta paix et à ton service. Amen. Ainsi parle l'Éternel, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous mon esprit, je serai votre père, vous serez mes fils, mes filles. Frères et sœurs, c'est ainsi que Dieu nous met au cœur l'assurance de son pardon, et c'est ainsi qu'il nous donne de marcher tous ensemble vers ce royaume auquel il nous convie. Chantons notre reconnaissance. Prenons place. Le baptême exprime tellement la grâce première et la grâce seule, que j'aurais envie de temps en temps de baptiser les gens d'office, sans même leur demander quoi que ce soit. Après tout, c'est ça la grâce, une déclaration d'amour qui ne demande pas que l'autre devienne aimable ou nous fasse une propre déclaration. Il n'empêche que ce n'est pas tout à fait comme cela, Jessica, que les choses se passent pour vous, puisque vous venez ici au terme, non pas au terme d'ailleurs, durant un cheminement qui vous est très personnel. Et il me semble que ce serait précieux pour nous tous d'entendre quelques mots de ce parcours qui vous conduit à demander maintenant le baptême. Je vous invite à me rejoindre avec parrain et marraine pour que vous nous fassiez aussi comprendre que ce cheminement n'est pas un cheminement individuel, il est personnel, mais vous avez été bien accompagnés et c'est l'occasion de nous en dire quelques mots en vous adressant à la communauté.
Bonjour. Issue d'une famille protestante, j'ai toujours été élevée dans la foi chrétienne. Enfant, j'ai suivi très régulièrement des cours de catéchisme et me suis rendue très souvent à l'église. Pourtant, bien qu'étant très croyante à cette époque, je n'ai jamais été baptisée lorsque j'étais petite, contrairement à mes aînés. Puis le temps a passé et je ne saurais dire à quel moment cela s'est produit, j'ai cessé de croire. Je suis alors devenue très pragmatique, remettant constamment tout en question, et principalement l'existence de Dieu. Alors, quand j'ai fait part à mon entourage, et principalement mes amis les plus proches, de mon intention de recevoir le baptême à l'âge de 31 ans, la plupart d'entre eux ont été très surpris. Certains se sont inquiétés, me demandant sur un ton très solennel si j'allais bien, si j'éprouvais des difficultés dans ma vie personnelle, et si c'était notamment la raison pour laquelle je ressentais soudainement le besoin de me tourner vers Dieu. D'autres, au contraire, n'ont pas pris au sérieux ma démarche, ironisant sur le fait que dorénavant, je me devais d'adopter un mode de vie monacal. D'une certaine manière, ils n'avaient pas tort. Depuis quelque temps déjà, je ressentais un manque dans ma vie, lequel se traduisait par un besoin grandissant de m'élever spirituellement et de changer en profondeur. Mais je ne parvenais pas à déterminer la nature et l'origine de ce manque, ni à mettre des mots sur ce que j'éprouvais. Pourtant, j'ai toujours eu l'intuition que je n'étais pas seule dans l'existence et que quelque chose de supérieur nous reliait tous les uns aux autres, ainsi qu'à toute chose. Ce n'est que très récemment, au terme d'un long travail d'introspection sur moi-même, que j'ai finalement réalisé que la quête de spiritualité qui m'animait traduisait en fait l'expression de ma volonté de renouer une relation personnelle avec Dieu.
Alors, Jessica, que demandez-vous ?
Je demande le baptême.
Alors, je vous invite à vous approcher. Jessica, je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jessica, pour vous aussi, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ainsi, Jessica, Dieu vous conduira sur votre chemin personnel vers cet horizon que nous appelons cette terre où coule le lait et le miel. Amen. Cette déclaration d'amour que vous venez de recevoir peut vous inciter à dire quelques mots d'accueil et quelques mots en retour. Après tout, c'est cela la foi. C'est saisir cette déclaration d'amour qui nous est faite et en faire quelque chose. Et cela, nous pouvons l'exprimer à travers une confession de foi. Et vous avez donc préparé une profession de foi qui pourra nous tenir lieu de confession de foi pour nous-mêmes ce matin. Je vous invite donc à vous lever pour vous associer aux mots de Jessica.
Dans le psaume 143, verset 10, David s'adresse à Dieu de la façon suivante. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans la voie droite. À l'instar de David, si je me présente devant vous aujourd'hui, c'est pour clamer haut et fort ma foi en Dieu et lui demander qu'il me guide dans le sens de sa volonté, afin de devenir une personne meilleure. Oui, je crois en Dieu, notre Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et invisibles. Il règne sur tout l'univers. Il est amour, source de vie, mais aussi source de responsabilité. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons prendre au sérieux la mission qu'il a confiée à chacun d'entre nous. Car nous répondons de nos actes, non seulement devant notre propre conscience, mais avant tout devant lui. Je crois aussi en son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui a fait le don de sa vie pour le salut de nos âmes imparfaites, preuve de l'amour inconditionnel qu'il nous porte. Il nous a transmis sa parole, retranscrite dans les évangiles, afin de nous indiquer le chemin à suivre pour nous réaliser pleinement en tant qu'homme et ainsi nous rapprocher de Dieu. Je crois aussi en sa résurrection d'entre les morts, annonciatrice d'une nouvelle naissance et d'une nouvelle vie pour tous ceux qui ont choisi de placer sa foi en lui. Enfin, je crois en cette puissance qu'est l'Esprit-Saint, qui, tout comme le vent, est immatériel et insaisissable, mais dont on peut néanmoins ressentir l'impact et les effets sur les esprits et les cœurs. C'est cet esprit qui me pousse à agir aujourd'hui, en réponse à l'appel du Christ pour devenir son disciple. En acceptant de me laisser guider par l'Esprit de Dieu, c'est humblement que je reconnais que je ne suis pas capable d'évoluer seule dans ce monde qui, trop souvent, peut sembler inconnu et hostile. Je reconnais ainsi que j'ai besoin de Dieu pour m'indiquer le chemin à suivre dans ma vie, telle l'aiguille d'une boussole, pointant toujours vers le nord sous l'action d'un champ magnétique invisible. Amen.
Prenez place. Jessica, vous venez de recevoir le baptême, signe de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Vous avez accueilli cette grâce par votre foi que vous avez exprimée, que vous avez partagée avec nous. Et nous vous recevons comme membre de l'Église, membre de cette Église particulière, qui est l'un des visages de l'Église universelle, de cette Église invisible, dont vous parliez tout à l'heure. Vous avez bien sûr votre place à la table du Seigneur, vous avez votre place au travail de son Église, c'est le sens de la responsabilité que vous évoquiez également. Alors, quelle est la place que vous entendez occuper? Quel est ce chemin qui s'ouvre devant vous désormais? Eh bien, c'est la question que je vous pose et cette question à laquelle je vous invite à répondre maintenant.
Cette journée marque le début d'une nouvelle période dans ma vie et d'un nouveau départ dans ma relation avec Dieu, car elle constitue la première étape, et certainement pas un aboutissement, d'un long parcours personnel et spirituel. En répondant positivement à l'appel de Dieu et à son amour, j'ai enfin décidé de vivre pleinement ma foi et de donner concrètement du sens à ma vie. Je promets ainsi de faire tout mon possible pour suivre les enseignements de paix, de joie et d'amour qui nous ont été dispensés par notre Seigneur Jésus-Christ et à les mettre en pratique au quotidien. Je m'engage notamment à aimer mon prochain et aller à sa rencontre, ce qui implique de le respecter dans ses différences et d'être attentive à ses besoins. Je prie Dieu pour qu'il m'aide à faire ce qui est juste et bon, en dépit de mes craintes et mes faiblesses. Et je le prie pour qu'il me donne la force et le courage de surmonter toutes les difficultés qui se dresseront sur mon chemin. J'espère que je saurai me montrer digne de ce que j'ai reçu aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention bienveillante et fraternelle.
Nous nous associons à votre prière. Éternel notre Dieu, merci pour ce que tu nous offres jour après jour, et en particulier pour cet esprit qui habite en notre cœur, nous rassurant, nous fortifiant. Merci pour cette parole, merci pour cet évangile qui nous guide vers toi et vers les autres. Nous voulons te remercier pour cette sœur que ton amour nous permet d'accueillir aujourd'hui. Grande est notre joie pour ce moment qui s'inscrit dans la dynamique d'alliance que tu noues avec l'humanité de génération en génération. Fortifie tout particulièrement la foi de Jessica et aide-nous, jour après jour, au fil des semaines, à nous approcher sans cesse plus près de toi, à être plus confiants en ta parole, à être plus au service des autres. Que ta joie, ô notre Père, soit notre force. Amen. Je vous invite à regagner votre place. Dans ce cheminement qui fut celui de Jessica, nous avons eu l'occasion d'ouvrir le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, et de nous interroger un peu sur ce chapitre 9. Et donc c'est ce texte que je vous propose pour notre méditation ce matin, premier livre de Samuel, le chapitre 9 et le premier verset du chapitre 10. Ça pourrait commencer comme un conte. Il était une fois un homme de Benjamin, du nom de Kish, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bécaroth, fils d'Aphia, fils d'un Benjaminite. C'était un homme puissant et important. Il avait un fils, du nom de Saül, homme d'élite et beau, plus beau qu'aucun des Israélites, et les dépassant tous d'une tête. Les ânesses de Kish, père de Saül, s'égarèrent. Et Kish dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va chercher les ânesses. » Il traversa les monts d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Il traversa le pays de Shaalim et rien. Il traversa le pays de Benjamin sans les trouver. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf, lorsque Saül dit à son serviteur qui était avec lui, « Viens, retournons, de peur que mon père, cessant de penser aux ânesses, ne s'inquiète de nous. » Il lui répondit, « Il y a justement dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, et peut-être nous indiquera-t-il le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de pain dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons ?» Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici que j'ai sur moi le quart d'un sicle, un sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera le chemin. » Autrefois en Israël, l'homme qui allait consulter Dieu disait, « Venez, allons chez le voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. » Saül dit à son serviteur, « Bien dit, viens, allons-y. » Et ils allèrent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils trouvèrent des jeunes filles qui sortaient pour puiser de l'eau. Et ils leur dirent, « le voyant est-il ici ? Elles leur répondirent, oui, il est devant toi. Mais maintenant, va vite, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte sur le haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera pas avant qu'il soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi les invités mangeront. Montez donc maintenant, et à l'instant vous le trouverez. Comme ils arrivaient au milieu de la ville, Samuel sortit à leur rencontre en montant vers le haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant « Demain, à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu lui donneras l'onction pour qu'il soit le conducteur de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai pris garde à mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Samuel aperçut Saül, et l'Éternel lui dit « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui détiendra le pouvoir sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel à la porte de la ville et dit « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant ?» Samuel répondit à Saül « C'est moi le voyant. Monte avec moi vers le haut lieu. » Vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir au matin et je t'indiquerai tout ce qui est dans ton cœur. Ne t'inquiète pas de tes ânesses perdues. Il y a aujourd'hui 3 jours, car elles sont retrouvées. À qui sera tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas à toi et à toute la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas benjaminite? De l'une des plus petites tribus d'Israël? Mon clan n'est-il pas le plus petit de tous les clans des tribus de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des invités, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, « Serre la part que je t'ai donnée en disant, mets-la de côté. » Le cuisinier préleva la cuisse et ce qui l'entoure, et il la plaça devant Saül. Et Samuel dit, « Voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange, car on l'a pour ainsi dire gardé pour toi au moment où j'ai invité le peuple. » Ainsi, Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin. Dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit « Lève-toi, et je te laisserai partir. » Saül se leva et ils sortirent dans la rue, tous deux ensemble, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Celui-ci passa devant. « Arrête-toi maintenant, » reprit Samuel. « Et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, « L'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage. » Je vous invite maintenant, frères et sœurs, à ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières. Au cantique 297, nous chanterons les strophes 1, 3 et 4 du cantique 297. Levons-nous pour chanter. Éternel, garde-nous de nous croire arrivés, de nous croire possesseurs de ta vérité. Rends-nous disponibles pour une recherche toujours plus profonde de ton évangile. Que jamais le passé ne nous enferme, mais que ton esprit nous mette en marche. Chers frères et sœurs, ce récit biblique pour le moins étrange montre une fois de plus à quel point la Bible est un recueil de contes qui ne nous apprennent pas forcément grand-chose, mais qui ont ce mérite de recueillir les expériences fondamentales de l'humanité pour nous servir d'aide-mémoire. Et ce texte, ce chapitre pour le moins incongru, n'avait-il pas des choses plus importantes à consigner à l'époque dans l'histoire du peuple d'Israël? Eh bien, ce chapitre fonctionne comme un roman dont le héros, Saül, n'est pas sans nous faire penser à quelques personnages de fiction, peut-être des personnages tels Guillaume de Baskerville, Casaubon dans Le Pendule de Foucault ou encore Roberto de la Grive dans L'île du jour d'avant, qui se trouvent embarqués dans des aventures aussi ordinaires que sublimes, dans lesquelles ils font l'apprentissage du déchiffrement du réel. Ce récit biblique est à vrai dire un récit initiatique. Il entraîne Saül et le lecteur qui le suit, qui veut bien le suivre, sur la piste de l'identité, une identité qui se construit au fil de la narration. Ce récit raconte l'histoire d'un homme, Saül, qui va finalement se découvrir, se révéler à lui-même, au fil de ces épisodes qui se succèdent. De ce point de vue, la Bible est effectivement une fiction qui mobilise notre intelligence, notre curiosité, notre confiance, notre désir, qui constitue notre identité. Et la Bible ouvre une perspective à cela, donne du sens, nous aide à produire du sens. Un récit initiatique, disais-je, l'initiation chrétienne, elle est ici. Et tout d'abord, il s'agit de se préparer à accueillir la vie. Ce récit est initiatique en ce sens qu'il nous permet de repenser à la fois notre filiation et notre vocation personnelle en nous faisant progresser pas à pas vers une meilleure compréhension de nous-mêmes, vers une meilleure connaissance de ce dont nous avons besoin pour nous épanouir. Voyons cela. Tout d'abord, j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici même, l'âne est la métaphore animale de l'homme dans la Bible. Il suffira que vous vous reportiez au chapitre 13 de l'Exode pour comprendre l'analogie qu'il y a entre l'être humain et l'âne. Partir à la recherche des ânesses de son père, c'est donc pour Saül tout à la fois partir à la recherche de sa propre humanité et partir en quête du père réel, et non plus simplement du père biologique. C'est l'invitation qui nous est faite dans ce texte qui accumule les signes auxquels nous devons devenir sensibles pour appréhender la vie dans toute son étendue. Ce texte est une collection de signes, et la discipline qui étudie les signes, c'est la sémiotique. Et nous ferions bien, nous aussi, d'être sémioticiens. À mesure que le personnage Saül va évoluer dans l'espace, un espace pour le moins inconnu, les contrées qu'il traverse sont des contrées inconnues dans les textes bibliques. Ce sont des mots inventés de toutes pièces, des noms qui ne figurent pas une topographie que nous aurions pu fouler à son époque. C'est l'imaginaire qui ouvre notre propre existence à un plus à vivre, à ce que nous ne connaissons pas justement. C'est l'exploration de l'étrangeté. C'est donc l'exploration de la vie réelle, car la vie que nous connaissons n'est déjà plus la vie. Et donc, à chaque fois que Saül évolue dans cet espace topographique, eh bien, nous évoluons dans le théâtre intérieur de notre propre caractère, de notre personnalité, pour atteindre temporairement notre pleine identité, le temps de l'onction divine, ce moment où nous sommes à bout touchant avec nous-mêmes. Alors commençons par la fin pour y voir un peu plus clair, pour voir où tout cela nous mène. Et parlons justement de cette onction. L'onction réalisée par le prophète Samuel ne se mérite pas. Pas plus que le baptême ne se mérite ou se conquiert. Le parcours initiatique n'est pas un parcours du mérite. C'est un parcours de préparation, c'est un parcours éducatif. C'est un parcours qui nous aide à faire bon accueil à la grâce. C'est un parcours qui nous ouvre. C'est un parcours qui nous fait prendre conscience au fait qu'avant même que nous commencions à le désirer, la vie est susceptible d'être l'histoire de notre pur bonheur. Le parcours initiatique nous aide à ouvrir les yeux sur notre entourage et à découvrir la vie telle qu'elle est et non telle que nous nous la représentons pour le moment. Le parcours initiatique nous ouvre les yeux, l'esprit, l'être, à ce qui nous comblera d'une joie réelle, une réelle joie de vivre. Et ce n'est pas pour rien que Samuel est appelé le voyant et qu'il se trouve sur le chemin de Saül. L'initiation, finalement, consiste moins dans l'accumulation d'un savoir qui nous permettrait de percer tous les secrets de l'univers et peut-être même de savoir qui a effectivement tué John Fitzgerald Kennedy, qu'en une sensibilisation à la vie, en ses multiples aspects. Ouvrir les yeux et voir la vie en profondeur. Ouvrir les yeux sur le réel, comme les disciples ouvriront les yeux sur le chemin qui les mène à Emmaüs, là où Dieu se tient, sans que nous le sachions à l'avance, selon la formule du patriarche Jacob, qui lui-même fut initié dans la nuit de Bethel. C'est le cas aussi d'un autre Saül, qui deviendra Paul, et qui, sur son chemin de Damas, fera sa propre initiation. Et finalement, les écailles qui recouvraient ses yeux tomberont, et il verra le monde, selon Dieu, et non pas simplement selon son idéologie. Cette initiation consiste donc à se frotter au réel, en compagnie de personnes qui ont déjà fait l'expérience d'un regard plus profond sur les choses, sur les situations, sur les personnes. C'est une invitation à voir plus loin. Se frotter au réel en compagnie de personnes qui sont curieuses de la vie, qui ont un rapport scientifique à la vie, c'est-à-dire des personnes qui interrogent, qui ne se contentent pas de ce qui est là, mais qui veulent donner du sens, de la perspective, de l'orientation, qui ne tiennent pas pour évidentes les vérités qui n'ont pas été soumises au doute, à la critique. L'itinéraire de Saül, le premier Messie de la Bible, puisque le premier à recevoir l'onction, c'est donc le premier Christ, est un parcours qui se fait en 3 jours, nous indique Samuel. 3 jours, un autre signe. C'est le signe de la mort et de la résurrection. Cela indique que Saül est en bonne compagnie. Il est avec Jonas, il est avec Jésus, il est avec Isaac, d'autres figures de l'initiation qui nous enseignent qu'il s'agit d'abandonner une part de soi-même, la part figée, celle de nos idéologies, les dogmes, les postures, parfois ce que nous avons reçu de nos maîtres, de nos parents, de nos pasteurs, les définitions, les images d'Épinal qui ont pu être vraies un temps, mais la vie avance et ce que nous en disons doit également avancer. Les clichés, tout ce qui fixe le vivant, voilà ce dont il faut se départir parfois. Vouloir maintenir en l'état l'instant qui nous est donné, voilà tout le problème. Mourir à nos réalités, voilà toute la solution. Mourir à nos représentations si imparfaites, pour nous ouvrir au réel, à ce qui est effectivement disponible. Cette mort et cette résurrection s'expriment dans tout ce chapitre 9, qui est le chapitre du manque. Saül va finalement manquer de tout. Il n'a plus de pain, il n'a plus d'argent, il ne sait même plus où il est à court d'idées, il est à court de perspectives, il est complètement sec. Eh bien, ce parcours du manque, ce parcours de la mort qui sera comblé au chapitre 10, et c'est évidemment une invitation à lire le chapitre 10, c'est la dynamique de l'évidement, c'est la kénose, pour dire le terme technique, celui qu'utilisera Paul d'ailleurs dans l'épître aux Philippiens. Cette kénose, ce vide qui permet de faire de la place à la vie, qui permet de faire de la place à Dieu. Cette kénose, ce vide qui évite que nous soyons remplis de nous-mêmes et que nous puissions faire de la place à l'autre, dont nous avons entendu qu'il est nécessaire pour pouvoir aller plus loin sur son chemin personnel, pour nous ouvrir à un horizon plus large, plus beau, plus intéressant. Saül connaît 3 jours de manque qui constituent son carême, sa période de formation où nous sommes sans artifice, avec rien d'autre que soi. C'est peut-être tout simplement horrible d'être seul avec soi-même, mais c'est la condition sine qua non pour advenir à soi-même. Aucun avoir, juste l'être. Condition idéale pour se remettre en cause, pour remettre en cause les enseignements reçus, ce que l'on tenait pour véridique, sans avoir jamais interrogé ce que nous tenions pour ferme. Peut-être parce qu'on ne voulait pas mûrir, pas vieillir, pas mourir, maintenir l'instant en l'état, de peur que cela change. Et précisément, tout doit changer. Qui est mon père ? Voilà l'une des questions au cœur du périple de Saül. Qui est véritablement mon père ? Est-ce celui dont je partage le patrimoine génétique ? Est-ce celui qui m'a fait venir au monde des vivants ? Est-ce celui qui m'a permis de grandir ? Ou alors y a-t-il, par-delà toutes les figures paternelles que j'ai croisées, un père céleste dont je tire véritablement mon existence ? En découvrant de nouveaux aspects de la vie auxquels il n'avait pas été préparé, Saül est en mesure de s'interroger sur lui-même. Saül ne cesse d'être bousculé. Saül n'est jamais là où il l'attend. Saül ne cesse de se rendre de lieu en lieu qu'il n'avait pas envisagé. Saül ne sait même pas où se retrouver sur une quelconque carte, car il est hors de la carte. Il découvre notamment que la vie n'est pas en ligne droite. Il se rend compte que de nombreuses bifurcations sont nécessaires pour arriver à bon port. Il découvre que tous les chemins ne mènent pas à Jérusalem, ou à Rome, ou à Genève, ou à la Mecque. Et qui nous conduit sur ces chemins de traverse ? Plus loin dans le récit, nous apprendrons que Saül ne rejoindra pas son père, alors que c'est son père qui l'envoie, et qu'il désire retourner chez son père au verset 5. Mais au chapitre 10, verset 14, c'est chez son oncle qu'il aboutira finalement. Voyez comme d'autres filiations voient le jour. Les modèles traditionnels ne s'imposent pas dans la Bible. Qui est mon père ? Qui est ma mère ? Qui sont mes frères et mes sœurs ? Cette question sera reprise à nouveau frais par Jésus lui-même, proposant que la famille se constitue autour du service rendu à la parole de l'Éternel, à la volonté du Père, qui est dans les cieux. Jésus bouscule les modèles, notamment les modèles qui sont considérés comme naturels. Et c'est en ce sens aussi qu'il est pleinement Christ. Selon le mot de René Char, peut-être, celui qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard, ni patience. Alors, de ce parcours initiatique, de cette identité renouvelée, dont évidemment il ne s'agit pas de dire ce qu'elle est, car c'est une invitation à nous-mêmes faire ce parcours initiatique, à nous-mêmes découvrir notre identité. Eh bien, de cette identité renouvelée découle un rapport renouvelé au monde, qui peut s'exprimer dans ce beau terme d'hospitalité. Après s'être demandé « qui suis-je ?», Saül est en mesure de répondre aussi à la question emblématique « que m'est-il permis d'espérer ?». Le premier élément de réponse, il l'a obtenu en partant à la recherche des ânesses perdues. Ces ânesses qui ont joué le rôle de miroir pour lui, lui renvoyant l'image de l'enfant racheté selon la prescription d'Exode 13. Le premier de l'homme, comme le premier de l'âne, ne sera pas sacrifié, il sera racheté. Avec quoi ? Avec un agneau, avec le gigot, celui-là même qu'il mangera tout à l'heure, dans la salle où on l'attend de pied ferme. Saül racheté appartient non seulement à Dieu, c'est le sens du rachat, mais il occupe par conséquent une place dans le peuple de Dieu, lui qui est dans le plus petit des clans, de la plus petite des tribus, de ce misérable peuple qui est Israël, rien aux yeux du monde. C'est quasiment un avorton, ce Saül, quasiment Paul. Eh bien, c'est la raison pour laquelle Saül et son compagnon seront accueillis pour le repas qui n'attendait pourtant que Saül. C'est pour lui faire entendre raison, ou plus exactement pour lui faire entendre l'Évangile. Un Évangile qui n'attend ni mérite, ni gloire extérieure. Saül ne s'attendait certainement pas à avoir la meilleure place et à prendre la meilleure part. Cependant, c'est Saül, qui n'était pas invité, qui d'ailleurs ne savait même pas où il se trouvait, qui aura la meilleure place et cette meilleure part. Cela n'est pas sans enseignement. Cela nous fait entendre que le dernier arrivé n'est donc pas nécessairement celui qui a tous les devoirs, du moins dans la perspective biblique. Le dernier arrivé a aussi sa place. Et ici, on lui fait valoir ses droits et on ne lésine pas sur ses droits. Où est sa place ? La place de Saül est vraiment très très intéressante. Il faut pour cela faire un petit détour par la Septante, la traduction grecque de la Bible hébraïque, qui sera le texte que les évangélistes auront sous les yeux pour composer leur récit des vies de Jésus. Où est sa place ? Dans la salle du repas. En grec, c'est la katalouma. La katalouma éveille la mémoire du lecteur des évangiles. Encore un signe intéressant. C'est le terme qu'emploie l'évangéliste Luc la Cataluma, lorsqu'il parle de l'absence de place dans cette Cataluma pour Marie et Joseph, qui sont en train de faire venir le Christ au monde à Noël. Eh bien, la Bible nous dit que la question reste toujours ouverte et qu'elle implique fortement notre responsabilité. À la question de savoir s'il y aura de la place dans la Cataluma ou pas, la réponse est chez nous. C'est nous qui décidons s'il y aura de la place dans la Cataluma ou pas, pour le Christ. Ferons-nous une place à celui qui se présente à nous ? Ferons-nous une place de choix à nos baptisés, à celles et ceux qui marchent après des ânesses, qui sont en quête d'humanité, et qui se retrouvent chez nous ici ou chez nous un peu plus large, chez nous quoi. Après que des femmes, allant chercher de quoi apaiser la soif, leur ont indiqué un lieu où il fait bon vivre. Ces hommes et ces femmes qui, après qu'ils auront déchiffré les signes des temps, viennent frapper à notre porte pour vivre, enfin, quand il ne s'agit pas tout simplement de survivre. Voyez-vous, ce texte nous dit que notre responsabilité est intacte dans la perspective chrétienne. La foi n'offre aucune dispense, comme le montre cette histoire où Dieu est incarné par des personnages de fiction, bien sûr, mais ces fictions nous renseignent sur nous-mêmes. Elles nous préparent à notre propre itinéraire spirituel. Les personnages agissent d'une manière divine en accomplissant ce qui est juste et bon et non ce qui les arrange ou ce qui favorise leur intérêt personnel. Ces personnages révèlent ce qu'est la vie portée à son plus haut degré d'accomplissement, ce que nous pouvons nommer Dieu. Ce sont des personnages qui cherchent d'abord le royaume des cieux, sa justice, et tout le reste leur est donné de surcroît. Et même celui qui n'était pas invité a son gigot, et un gigot de choix. Il est rare qu'on bénisse des sacrifices, il est rare qu'on bénisse des choses dans la Bible. Ce n'est donc pas le sacrifice qui est béni au sens de ce morceau de gigot qui est donné à Saül. C'est Saül, bien sûr, qui est béni. C'est lui le sacrifice au sens du don. Dans le Lévitique, sacrifier, ce n'est pas perdre, c'est donner. Saül nous est donné pour nous ouvrir à une compréhension élargie de ce qu'est la fraternité, de ce qu'est l'humanité. Alors bien sûr, il arrive parfois que l'inquiétude nous gagne lorsque nous cheminons sur notre propre chemin d'humanité. C'est le cas de Saül qui est sur le point de renoncer, qui est sur le point de retourner chez son père biologique, de retourner là où c'est naturel, là où c'est évident, là où on se sent en sécurité, parce que le lien est physique, matériel, naturel. Saül est animé par la peur que l'inquiétude l'emporte chez ce paternel biologique. Vous entendez la mise en abîme ? Peur de l'inquiétude. Eh bien, c'est là qu'interviennent les messagers de l'Éternel, les porteurs de la vie, qui prennent la parole pour redonner du sens à cet itinéraire, pour redire le pourquoi de cette démarche et révéler à nouveau l'horizon qui se profile et dont Saül ou le lecteur, qu'il soit modèle ou non, se rapproche pas à pas, mot après mot, signe après signe. Notre société est constellée de gens inquiets, à bon droit certainement, qui pensent que nous n'avons pas de quoi pratiquer l'hospitalité, que ce doit être chacun pour soi, chacun pour sa peau. Il n'est pas dit que ces personnes motivées par la peur de manquer ne soient pas en quête elles-mêmes d'une humanité meilleure, en quête d'une fraternité élargie à la démesure de l'Évangile. Mais ces personnes qui ont peur ont besoin d'être initiées à une autre qualité de vie, à un autre mode d'existence. Elles ont besoin d'ouvrir les yeux. Elles ont besoin d'être elles-mêmes reconnues et accueillies pour être rassurées, pour retrouver confiance, pour retrouver la foi et emprunter leur propre route au lieu de se terrer, de devenir païennes, enquistées, fichées en terre. Elles ont besoin qu'on leur ouvre les yeux. Elles ont besoin qu'on les aime. Elles ont, elle aussi, besoin d'une place dans la Cataluma, Amen. Les images d'Épinal, c'est par exemple celle qui consiste à dire que les musiciens du Titanic ont joué les cantiques 412. Tous les instruments ont été retrouvés dans les boîtes fermées, ce qui laisse entendre qu'ils n'ont rien joué du tout. Peut-être a-t-il été chanté ce cantique 412. Ceci pour dire qu'il ne faut pas le chanter de façon désespérée, mais de façon joyeuse. C'est un itinéraire initiatique tout à fait enthousiasmant. Alors levons-nous pour chanter avec le sourire les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique 412. Prenons place pour partager quelques informations. Tout d'abord, dans les familles, vous annoncez deux décès, celui de Madame Schlesing, dont les obsèques auront très probablement lieu mercredi à 11h ici même. Et puis ce matin, le décès du pasteur Philippe Vassot, qui succombait d'un accident vasculaire cérébral. Nous venons juste de l'apprendre. Nous vous recommandons de ne pas contacter France, notamment par téléphone, parce qu'elle est en train d'organiser, bien entendu, les obsèques, mais vous pourrez, bien entendu, leur envoyer un petit mot, et je me tiens à votre disposition pour vous donner une adresse où vous pourrez écrire à la résidence à Vincennes où il était. Et j'en profite pour saluer d'ailleurs la directrice de la résidence qui est avec nous ce matin. Dans notre agenda, samedi prochain à 18h ici même, prière silencieuse. Le lendemain, dimanche à 10h30, le culte sera présidé par le pasteur Jean-Pierre Rive. C'est un culte qui sera suivi d'un temps d'accueil dans la grande sacristie et d'une après-midi de l'oratoire ensuite. Vous voyez que la table est prête pour tout à l'heure la scène. Je vous rappelle que nous sommes toutes et tous les bienvenus, même ceux qui ne se sentent pas invités ou qui se sentiraient indignes pour je ne sais quelle raison, sont les bienvenus, y ont leur place. Chacun peut être dans les différentes tablées qui seront organisées et passer tout simplement le pain et le vin s'il ne souhaite pas communier. C'est tout à fait libre. C'est maintenant le moment de l'offrande, et bien que ce soit là aussi un moment de grande liberté. C'est pour nous bonheur et joie de te louer, éternel notre Dieu. Car nous recevons de toi la vie, l'espérance. Tu as envoyé ton Fils, il est devenu notre frère. Tu nous fais découvrir la puissance de l'Esprit qui forge notre paix, notre fraternité. C'est pour nous l'évangile de l'émerveillement, que toi, Seigneur, tu sois ainsi notre Père. Que Jésus-Christ soit le pain vivant donné au monde et que l'Esprit Saint demeure au plus secret de nous-mêmes. Aussi, nous t'adorons et nous te chantons. Pendant que Jésus et les disciples mangeaient, nous nous souvenons qu'il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude ». Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Nous nous unissons dans la prière. Dieu notre Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles, tu nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toutes choses nouvelles dans notre cœur et dans le monde, de telle sorte que puisse s'accomplir l'espérance que contient cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples et que nous te disons en communion avec tous les membres de ton peuple. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Frères et sœurs, le Christ frappe à notre porte. Venez, car tout est prêt. Le pain que nous partageons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le sang de l'Alliance, l'Alliance pour la multitude, pour le pardon de tous. Frères et sœurs, regagnons nos places dans la joie du Seigneur ressuscité.